L'identité est une question d'histoire. On raconte des histoires quand il s'agit d'identité. Et c'est pourquoi je vais commencer aujourd'hui par vous raconter une série d'histoires qui pourront vous sembler sans lien avec mon titre, mais il y en a un. Donc, quand il s'agit d'histoire, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Hérodote, et c'est les histoires d'Hérodote. Le livre est traduit parfois en français avec chronique, mais je préfère le titre histoire. Et au début des histoires, on est au premier chapitre, Hérodote raconte l'histoire de Crésus, le roi de Lydie. Histoire magnifique, pleine d'anecdotes. C'est dans cette partie-là qu'on parle de l'anecdote de Gigès et Candole, qui m'est très cher aussi et dont je parle dans mon livre. Mais là, c'est une autre chose qui m'intéresse. C'est Crésus, grand roi de Lydie, invite Solon, donc les fameux législateurs athéniens, donc ce sage athénien, invite donc Solon à sa cour pour profiter de sa sagesse et lui poser une série de questions. Et donc la première question qu'il pose est « J'ai envie de te demander si tu as vu quelqu'un qui est le plus heureux, qui serait le plus heureux parmi tous les hommes, Olbiotaton, le plus heureux. » Et Solon répond, donc pourquoi Crésus, c'est une question évidemment piège, parce que Crésus a envie d'avoir la réponse, c'est bien sûr toi, ô roi. Et la réponse de Solon, c'est ô basileu tellon athénaion, ô roi, c'est Tellus l'Athénien, c'est Tellus d'Athènes. Bon, Crésus est plutôt embêté par cette réponse qui lui semble très offensive. Et, mais du coup, il demande encore à Solon, et pourquoi donc ce Tellus serait-il le plus heureux des hommes? Solon continue en disant, il a vécu une vie plutôt aisée, vie moyenne d'Athénien. Un Athénien évidemment aisé, donc riche, qui mène une vie, aujourd'hui on dirait petite bourgeoisie, donc une vie aisée, sans problème réel. Et puis, il a eu deux enfants qui lui ont rendu honneur, donc qu'il a bien élevé, et puis qui se sont bien fait remarquer dans la société d'Athènes. Et puis il est mort pendant une bataille contre Eleusis, une ville voisine, et de façon glorieuse. Et là où il est mort, les Athéniens ont érigé une statue à son nom. Vous comprenez bien que Crésus n'était pas du tout content de cette réponse, parce qu'il disait, oui, mais moi je suis le plus riche des hommes, le plus puissant actuellement, et toi, tu me dis que Tellus est plus heureux que moi. Pourquoi ? La réponse de Solon, c'est de dire qu'on ne peut pas juger du bonheur de quelqu'un avant la mort. Première histoire. Deuxième histoire. Faust. Et en particulier le Faust de Goethe, mais en réalité le mythe même de Faust. Vous allez voir que ces histoires que je vous raconte sont des mythes fondateurs de notre imaginaire. Donc Faust, quelle est la caractéristique plus que l'histoire de Faust? Je vais insister sur la caractéristique fondamentale de Faust, qui est celle de toujours poursuivre quelque chose qui reste en mouvement et qui ne peut pas être atteint. C'est ce qui les sauve, c'est das ewig weibliche, l'éternel féminin, avec cette traduction française qui n'est pas très jolie, et c'est das ewig weibliche Zitunzinan, donc qui nous tire derrière lui, c'est les derniers vers du Faust de Goethe, c'est justement ce qui explique toute la vie de Goethe derrière Gretchen, mais derrière, dans cette Strebentat, dans cet effort d'aller toujours à l'avant, qui les mène en réalité nulle part, qui les tire simplement de plus en plus loin. Donc c'est une poursuite de quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est un mouvement qui ne s'arrête jamais, qui continue toujours. Voilà. Nous avons d'un côté quelqu'un qui meurt sur un champ de bataille et qui devient une statue, et de l'autre côté quelqu'un qui ne meurt pas, mais, ou mieux, qui meurt, mais justement ceux qui les sauvent à la fin, quand le diable vient prendre l'âme de Faust, justement c'est cet effort, cette poursuite totale, cette tension continue qui sauve Faust, et donc l'ange le récupère. Bon, autre histoire, toujours du monde allemand. La mort à Venise, vous connaissez un peu l'histoire de la mort à Venise. Alors, le protagoniste, Aschenbach, c'est un universitaire, pour une fois, on a un protagoniste, ou de toute manière un intellectuel, un écrivain, et qui vit dans une vie très, très réglée. Imaginez, vous avez entendu parler des Kant et de ses histoires, donc une vie ennuyante, très, très réglée, très cadrée, très rassurante, où tout est à sa place. Très bien. Et évidemment, il sait très bien qui il est. Tout le monde sait qui il est. C'est un personnage, un intellectuel connu, c'est un intellectuel reconnu. Donc, il a une place dans la société. Mais un jour, il croise un inconnu dans la rue, dont on ne saura jamais rien dans tout le roman de Thomas Mann. On sait juste qu'il croise cet inconnu, qu'il le regarde et que « Denn plötzlich war des gewahr, dass jener seinen Blick erwirdete. » D'un coup, il se rend compte que cet inconnu le regarde à son tour. Donc, il y a ce regard qui s'est changé. Ce regard le met dans un trouble impressionnant. On ne comprend pas très bien pourquoi. On lit une page magnifique de Thomas Mann. On voit toute cette tension qui est déclenchée par ces regards, même si on ne sait pas exactement ce que c'est que cette tension. Et puis, Thomas Mann nous dit « Es war Reislust, nicht weiter. » C'était une envie de voyage, rien de plus. On ne sait pas comment ce regard s'est relié à une envie de voyage. Sincèrement, c'est très difficile à comprendre. Cependant, notre ami Aschenbach part. Et il part où ? À Venise. Donc, un autre mouvement. Bah, l'histoire de mort à Venise, comme le titre le dit, c'est une histoire de mort, mais c'est d'abord une histoire de vacances. Aschenbach part en vacances. Vacances, vous voyez, le mot latin, ça renvoie à vacuum, donc c'est le vide. Aller en vacances, ça veut dire chercher le vide. Le vide de quoi ? Bah, le vide de ce qui est d'habitude plein, c'est-à-dire notre vie quotidienne. Donc, on vide tout ce qui est plein pour retrouver probablement quelque chose. Pour retrouver quoi ? Bah, c'est ce regard qui a créé la crise. Autre histoire. Cécile Portier. Donc vous voyez, je vous ai promis d'Athènes à Silicon Valley, je suis en train de le faire, d'Hérodote. Cécile Portier, œuvre assez intéressante, trace, aligne. Et dans cette œuvre, Cécile Portier s'est définie comme ça. C'est portrait robot, ce n'est pas du tout moi. D'abord, on ne me voit pas sourire, ni faire la tête, on ne voit pas non plus tous les petits plis que le temps a inscrits sur mon visage à chaque fois que je souris, que je fais la tête. Au mieux, c'est serrer le portrait de moi si j'étais morte. Si j'étais morte à 20 ans. J'ai plus de cernes que sur le portrait. Mais je ne désespère pas d'avoir le regard un tantinet plus pétillant. Ma coiffure est beaucoup moins impeccable. On m'a fait remarquer déjà que le portrait de Nathalie Page me ressemblerait un peu. Il est vrai que quand j'ai créé ces personnages, j'avais cette coupe de cheveux qu'il n'en est pas une. Mais je n'ai jamais eu ces sourcils effilés, épilés. Bref, heureusement, je ne me ressemble pas. Portrait, autoportrait assez étrange, mais très parlant. Et toujours pour rester à la Silicon Valley, une autre histoire, une histoire que nous nous racontons pratiquement tous les jours. au moins moi-même qui suis très narcissiste, c'est-à-dire l'histoire que Google raconte de nous-mêmes, quand nous nous googlons. C'est une histoire qui a évidemment une trame, qui a une structure, qui est la structure hiérarchique des liens que nous donne Wikipédia avec des images. Donc c'est une histoire assez intéressante qui nous dit quelque chose de nous, qui nous dit qui nous sommes et qui nous le dit de façon assez définie, assez claire. Parce que bien évidemment, elle nous dit qui nous sommes et elle nous dit qui les autres savent que nous sommes. Donc, c'est une histoire assez importante pour nous. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec mon titre et comment je vais relier tout ça à la question « C'est quoi moi ?» Alors, quelques considérations à partir de ces mythes fondateurs. Il y a une question qui se pose à partir d'un constat spatial, c'est la question de l'identité. Pourquoi d'un constat spatial? Parce que si vous y pensez bien, et c'est là qu'on explique le blick, le regard qui fait partir Aschenbach, nous nous posons la question de qui nous sommes de façon très générique avant de se dire que nous sommes un moi ou qui nous sommes un je. Avant tout ça, si vous faites abstraction de tout ce que nous savons sur le sujet, etc., sur Freud et so on, c'est une question que nous nous posons au moment où quelqu'un nous regarde. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte d'occuper une place, finalement. Chose qui n'est pas très claire avant. Quand je vois le monde depuis mon point de vue, je ne me vois pas, bien évidemment. Et je suis concentré d'abord sur un monde qui est autour de moi. Je me pose la question au moment où quelqu'un me regarde et là, il y a un problème, je dirais, une catastrophe qui s'est produite au moment de ce regard, c'est que je me rends compte que le monde que je vois n'est pas le seul monde qui existe. Parce que si quelqu'un est en train de me voir et voir autre chose que moi, justement parce qu'il me voit, et moi je ne peux pas me voir. Donc en gros, en voyant l'autre qui me regarde, je me rends compte de deux choses. La première chose, que le monde que je vois n'est pas objectif, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me regarde. Et puis, qu'il existe quelque chose qui est ici et qui n'est pas là, et qui me concerne de façon assez importante. C'est-à-dire que le monde que je vois et ce qui me permet de le voir ne peut exister que parce que quelqu'un d'autre le voit. Voilà, c'est une situation assez embêtante parce que justement je perds toute l'objectivité et la stabilité que je pourrais avoir si je n'étais pas là, si je ne me posais pas de problème. Il y a plusieurs mondes. Donc, tout de suite, une question de l'identité qui se pose à partir d'un constat spatial. Bah, l'espace est fait de places qui sont occupées par des corps et moi, je suis probablement un de ces corps et pas les seuls. Alors, angoissé par cette découverte, je pars justement en voyage. On comprend la relation entre la Reiselust de Aschenbach et la question de l'identité. Dès que je me pose la question, je vous répète pourquoi je pose la question « c'est quoi moi ?» plus que « qui suis-je ?» Parce que « qui suis-je » présuppose déjà que je suis un jeu, hein, je suis déjà un sujet. Je voudrais la question la plus basique, la plus naïve. Il y a quelque chose là, c'est quoi ce truc-là? Et donc, angoissé un peu par cette question, je pars. Pour voir. Alors, la première chose que j'aurais envie de faire, c'est de me mettre à la place de l'autre, de celui qui m'a regardé. Et en fait, je vois le regard de Sophie et puis j'essaie de me mettre à sa place et je me rends compte que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de prendre sa place. Et je commence une quête. Et en fait, ce que je voudrais essayer de vous démontrer dans cette causerie, c'est que cette quête est paradoxale et qu'elle n'arrive jamais à sa fin. Elle reste toujours inachevée jusqu'au moment de la mort. Et là, nous avons une idée assez claire d'une quête réussie, c'est celle justement de Tellus. Pourquoi? Parce que pour cette raison, Solon dit qu'il est le plus heureux des hommes, parce que, si vous y pensez bien, la place laissée vide par Tellus, où il meurt dans les champs de bataille, devient sa statue, et sa statue est une identité objective, stable et reconnue par tout le monde, construite par les Athéniens. Donc là, pourquoi il est le plus heureux? Parce qu'il est achevé en tant qu'identité. Et c'est quoi Tellus? Si on veut substituer la question, remplacer la question c'est quoi moi avec c'est quoi Tellus? Sa statue. C'est-à-dire ce qui prend sa place au moment où il a laissé vide. Pour Faust, bah, un peu plus frustrant pour lui, parce que son essai de atteindre quoi? Bah, une autre place, justement, comme moi qui essaie de prendre la place de Sophie parce que j'ai vu qu'elle me regarde, bah, reste toujours inachevé, dit das ewig weibliche Zitumsinan. Donc, Sophie continue à se déplacer et je ne peux pas prendre sa place. Et alors, ça, ce sont les thèses de base de mon discours aujourd'hui. Et la dernière, si nous voulons comprendre quels sont les enjeux de l'identité à l'époque du numérique, il faut comprendre ces mythes fondateurs et il faut comprendre, du coup, les enjeux de l'identité en général. C'est pour ça que je ne pense pas qu'un discours sur l'identité numérique ou l'identité virtuelle, vous verrez, je fais une petite différence entre les deux, je propose une petite différence entre les deux, n'est pas une question sans relation à une interrogation philosophique générale sur la question de l'identité, et c'est l'approche que je propose. Voilà, donc, revenons sur le paradoxe, ce qu'on peut appeler le paradoxe de l'identité, c'est-à-dire cette impossibilité de s'identifier. Alors, il est basé sur deux principes opposés. Alors, le premier, c'est que ce qu'on voit avec l'histoire des Tellus, je ne suis jamais le même. Il y a une autre chose qui arrive au moment où je pars en voyage, parce que je me suis rendu compte que quelqu'un me regarde, je pars en voyage et il y a une autre catastrophe qui arrive. Il y a le fait que, donc qui empire ma situation de départ, il y a le fait que le monde que j'ai regardé change. Pourquoi? Parce que moi je suis en train de changer, me mouvoir. Mon mouvement implique un changement. Donc mon mouvement spatial, et en général, si vous y pensez, et ça c'est la réponse de Solon à Crésus, il lui dit, bah, aujourd'hui tu es très heureux, mais je ne peux pas te dire que tu es heureux, parce que demain, un malheur peut arriver. C'est ce qui arrive évidemment dans l'histoire d'Hérodote, donc Crésus, son fils meurt, et puis il perd son royaume, bon, une catastrophe majeure. Donc c'est ce qui ne nous permet pas de faire des bilans avant une fin. Pensez au roi Lear, personnage magnifique, lui aussi de notre mythologie, de notre mythologie dans le sens de mythe de l'imaginaire collectif. Qu'est-ce qu'il fait Lear au début de la tragédie, et c'est pourquoi c'est une tragédie, il fait un bilan où il dit, toute ma vie s'est très bien passée, j'ai été un très bon roi, j'ai des très belle fille, sage, intelligente, bien mariée. Maintenant, je vais à la retraite. Mais je vais à la retraite de quoi? Pas tellement de ma fonction de roi, mais de ma fonction d'homme. C'est-à-dire, je fais le bilan de ma vie et comme Solon dit de Tellus, je dis, tout allait bien. Je suis heureux. Et là, maintenant, je voudrais m'arrêter dans un petit coin pour ne pas gâcher ce qui va arriver après. Et je vais juste me regarder. Ce que c'est beau que d'être une identité arrêtée, qui n'échange plus. Bien évidemment, vous avez lu le roi Lear, ce n'est pas comme ça. Dès que le roi Lear se met à l'écart, c'est la catastrophe, c'est la tragédie. Et la tragédie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir fait un bilan avant la fin. Donc, L'identité est en mouvement, donc diachronique. Hein, l'identité, nous pouvons essayer de saisir des identités synchroniques, c'est-à-dire c'est que je suis là maintenant, c'est qu'une chose est là maintenant. Mais l'identité en tant que chose qui est dans le temps est en mouvement et elle n'est donc pas saisissable avant la fin de ces mouvements. Mais, et voilà le problème, la fin de ces mouvements est la mort. C'est-à-dire, je finis ces mouvements quand je ne suis plus là. Et donc du coup, ça ne sert pas à grand-chose de m'identifier parce que je ne suis plus là. C'est-à-dire que, premier paradoxe, c'est ce fait que je ne peux m'identifier, je ne peux être une identité, je ne peux répondre à la question que c'est quoi moi, que quand je ne suis plus rien. Mais alors, ce n'est plus moi qui répond à la question, mais c'est quelqu'un d'autre. Comme dans le cas de Tellus, la statue faite par les Athéniens. Deuxième raison du paradoxe, c'est que comme je le disais, l'identité est une question spatiale. Ben, c'est une façon un peu d'expliquer le premier point. Pour m'identifier, il faut que quelqu'un puisse prendre ma place pour voir le monde avec mes yeux. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un puisse m'objectiver. Sinon, la subjectivité de la place où je suis ne me permet pas de me saisir. Sauf que personne ne peut prendre ma place parce que je suis là pour l'occuper. Personne ne peut prendre ma place tant que je suis là à l'occuper. Et donc, du coup, il n'est possible que quelqu'un prenne ma place que lorsque je ne suis plus là. Et encore une fois, paradoxe, je suis quelque chose au moment où je ne suis plus rien. Ce paradoxe déclenche ce que j'appelle l'angoisse de l'individuation. C'est quoi l'angoisse de l'individuation? C'est un peu ma façon de répondre aux différents efforts du postmodernisme contre le sujet. Si vous voulez, ça fait au moins 40 ans que nous nous battons contre le sujet, parce que le sujet est méchant et il est trop fort dans une perspective idéaliste, contre Hegel, etc. etc. Et là, vous lisez de Deleuze à Lyotard, à Derrida, etc. Non, contre le sujet. En réalité, je pense que, très bien, je suis d'accord avec eux tous, mais je pense que le vrai problème, ce n'est pas qu'on a un sujet trop fort, mais c'est que on n'a pas de sujet. Notre angoisse dérive du fait que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas un sujet stable, que nous n'arrivons pas à nous identifier. Et donc, plus que cette angoisse du sujet idéaliste trop fort, qu'on retrouve justement dans l'idéalisme chez Hegel, etc., qui est une angoisse typiquement philosophique, c'est un problème philosophique dont je reconnais l'importance, mais dans notre vie, ce qui nous angoisse vraiment, c'est le fait que nous n'arrivons pas à nous identifier, à nous individuer. Nous n'arrivons pas à répondre à la question « c'est quoi moi ?». Et cette angoisse, donc, c'est simplement le fait que la recherche réitérée est toujours un échec de s'autodéfinir. C'est ça. Je continue à chercher de m'autodéfinir et je me rends toujours compte que cette recherche est un échec. Et cette condition d'angoisse est une condition normale et banale de nous tous, depuis Athènes jusqu'à la Silicon Valley. Et c'est l'angoisse de Crésus qui demande à Solon s'il est le plus heureux des hommes, parce que la question en réalité c'est ça, est-ce que je suis le plus heureux des hommes? C'est-à-dire, est-ce que tu peux me dire qui je suis? D'une part, c'est notre angoisse quand nous nous googlons et nous cherchons, nous demandons à Google une réponse sur qui nous sommes, ou quand nous passons des heures à choisir la bonne photo profil à mettre sur Facebook. C'est la même angoisse. Donc c'est aussi pour moi une réponse à ceux qui disent aujourd'hui on est narcissiste parce qu'on passe beaucoup de temps à mettre des photos. Bah, on a toujours été narcissiste, et plus que du narcissisme, c'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse de se dire qui nous sommes, de répondre à la question et d'essayer de répondre pour les autres aussi à la question c'est quoi moi. Alors cette angoisse, heureusement nous sommes des hommes et nous trouvons toujours des stratégies pour répondre, des êtres humains, et nous trouvons toujours des stratégies pour répondre à nos angoisses. Je pense que l'angoisse de l'individuation est peut-être un des moteurs les plus forts de notre existence. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous fait lever le matin, c'est ce qui nous pousse à tomber amoureux, c'est ce qui nous pousse à étudier, à écrire, à faire plein de choses. Je pense que c'est vraiment un des moteurs, un des principaux moteurs de notre existence. Et en fait, nous trouvons des stratégies pour essayer de nous individuer. Et ces stratégies, ça vous semblera étrange, mais ces stratégies peuvent être de deux types pour répondre justement au paradoxe. La première, c'est celle de prendre la place de l'autre pour me voir avec ses yeux. Pour m'objectiver. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. J'essaye de me mettre à la place de Sophie pour voir ce qu'elle voit. Pour donner de la matière à cette place que j'occupe et que je ne peux pas voir moi-même. Cette stratégie-là, c'est ce qu'on peut appeler amour. Alors, petit caveat, quand je parle d'amour et de mort, je parle des structures formelles d'amour et de mort, je ne parle pas des contenus, je ne parle pas de tomber amoureux avec tout l'imaginaire qui va avec, je parle de la structure formelle qui est à la base du mouvement amoureux. Je vais essayer de m'expliquer tout à l'heure en vous faisant des exemples. C'est-à-dire que j'appelle amour la tentative de prendre la place de l'autre. C'est une tentative d'identification autonome. Je l'appellerai comme ça et je m'expliquerai tout à l'heure. La deuxième stratégie, c'est la stratégie inverse, c'est pour ça encore que je vous dis c'est des structures formelles. Ce n'est pas c'est ce que j'appelle mort, des stratégies de mort, qui ne sont pas nécessairement des stratégies suicidaires, hein, mais qui sont des stratégies qui consistent à accepter la disparition, c'est-à-dire à essayer de dire, ok, je laisse ma place vide. Prends ma place et dis-moi à ma place qui je suis. Vous vous rendez compte que, oui, cette stratégie arrive à être achevé seulement au moment de la mort, dans le sens de mort biologique, mais c'est des stratégies que nous adoptons très souvent dans notre vie de tous les jours. Les vacances, justement, sont une stratégie qui est une stratégie de mort, sans doute, mais je pense que acheter un sac griffé est aussi une stratégie de mort, c'est-à-dire c'est le fait d'essayer de faire prendre ma place à quelque chose d'autre, un discours qui est celui de la marque. Je ne suis rien, je suis Lévis. C'est un discours qui est très fort et qui arrive, en fait, évidemment, mon idée, c'est que les stratégies de mort sont beaucoup plus fortes et arrivent à atteindre leur but bien mieux que les stratégies d'amour. L'amour est toujours imparfait, tandis que la mort arrive bien à faire ce qu'elle doit faire. Donc, typiquement, le branding et le fait de les stratégies des marques et le fait d'acheter une marque plutôt qu'une autre sont des stratégies d'identification très fortes et très réussies. Bien. Essayons d'analyser ces deux stratégies de façon un peu plus précise. Commençons par l'amour. Alors, l'amour, justement, dans le sens de prendre l'espace de l'autre, est une stratégie autonome, c'est-à-dire que j'essaye d'être le protagoniste de mon identification. C'est moi qui m'identifie. Je reste là, c'est moi qui prends la place de l'autre pour m'identifier. Donc, je la pense comme structure formelle, mais aussi très, très concrète. Faire l'amour, ce n'est rien d'autre que essayer de prendre la place de l'autre. Vivre avec quelqu'un, ce n'est rien d'autre que essayer de voir, d'avoir le même récit. Pourquoi ? Parce qu'on voit le monde depuis les mêmes points de vue. Et de ce point de vue-là, prendre l'espace de l'autre, par exemple, prenez le mythe le plus fort de cette idée-là, c'est le mythe d'Aristophane et le récit d'Aristophane dans le banquet de Platon. Quand vous rappelez dans le banquet de Platon, il y a toute une série, donc un défi à qui explique ce que c'est que l'amour, et donc il y a tous les personnages, les personnes présentes au banquet qui essayent d'expliquer leur mythe, d'expliquer ce que c'est que l'amour avec des histoires. L'histoire racontée par Aristophane est que avant, on n'était pas mâle et femelle, mais il y avait un être unique, hermaphrodite. D'ailleurs, qui n'est même pas hermaphrodite, parce que dans les mythes d'Aristophane, il y a des unités qui sont homme-homme, donc évidemment. Donc on est des êtres faits à deux, et puis ces êtres faits à deux, donc qui occupent réellement la même place, étaient tellement puissants, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à s'identifier, ils sont à deux, ils sont un à deux. Ils sont tellement puissants que les dieux jaloux, il y a toujours la hubris, l'outrecuidance des hommes qui deviennent trop puissants parce qu'ils sont justement cette unité, et à la hubris suit l'afton ontonteon, la jalousie des dieux qui sont jaloux, envieux du fait que les hommes soient trop puissants et qui coupent en deux. Une fois coupés en deux, ils ne peuvent qu'espérer toute leur vie de se remettre ensemble, mais évidemment, jamais ils pourront être une unité. Donc, prendre la même place, mais sans jamais vraiment y arriver. Vraiment, imaginez, toutes nos constructions de couple fonctionnent avec cette espèce de proximité qui tend à créer un monde commun devant nous, qui nous permet de dire qui nous sommes. Plusieurs types d'amour, en fait. Un amour fusion qui correspond exactement à cette stratégie-là, qui est celle d'Aristophane. Essayer de fusionner avec l'autre personne, d'être une seule chose, c'est quand, dans nos rapports de couple, nous disons plus nous, mais on. Dans un rapport de couple très fusionnel, le nous, le toi puis moi, devient nous, et puis il devient on. L'impersonnel, selon moi, très significatif, parce que donc on va en vacances. Parce que ça veut dire que c'est une entité unique. Et évidemment, il est très bien cet amour-là, sauf quand on se rend compte là aussi qu'il y a une divergence, qu'il y a une différence, que la chose ne fonctionne pas. Penser, les séparations sont toujours très violentes. C'est une séparation qui m'a poussé à écrire ces livres d'ailleurs. Et le moment où l'autre personne commence à raconter une histoire différente de la vôtre. C'est vraiment ça, où on se dit, mais alors qui je suis? Le moment où on se dit, mais non, tu te rappelles quand on était allé à Boston? Non, là, on s'engolait tout le temps. Mais non, on était content. Et là, on se rend compte que, alors, qui suis-je? C'est quoi moi? Parce que ce que je raconte n'est plus ce qui est raconté par l'autre. Donc c'est ça, c'est le problème de l'amour fusion. L'amour Proust est l'amour de Faust, donc, qui est dans cet effort continu. L'autre continue toujours à s'éloigner et on continue toujours à le poursuivre. L'amour proximité est une espèce d'arrangement raisonnable et le plus commun quand on devient adulte. C'est l'amour, pour répondre à quelque chose qui fait partie de l'imaginaire collectif, c'est l'amour des Mrs. and Mr. Halford dans Eyes Wide Shut. C'est l'amour bourgeois du couple qui sait que nous sommes deux choses séparées, mais quand même nous pouvons trouver une proximité telle qui nous permette de, disons, stabiliser un peu nos identités. Elles ne seront jamais stables, mais on peut trouver des systèmes, des stratégies pour rester à proximité, pour que tu puisses dire qui je suis et que moi je puisse dire qui tu es, et du coup ça arrive à nous stabiliser. La solution de Eyes Wide Shut est géniale parce que justement c'est accepter cette proximité. La fusion n'existe pas et donc il faut simplement trouver un compromis. C'est la fin du film où on accepte que l'amour ne fonctionne pas. C'est juste une question de trouver un compromis assez bon pour tous les deux pour qu'on puisse tenir. L'amour fuite. Autre type d'amour qui est un peu celui du Don Juan. Don Juan qui finalement n'a pas, veut simplement occuper tout l'espace existant. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il ne peut pas fusionner avec une autre personne, mais alors il dit, et si j'arrivais à me regarder depuis tous les points de vue possibles? Donc du coup, c'est comme si l'espace était complètement vide, et en fait les conquêtes des donjons sont complètement vides, il n'y a aucun rapport avec les personnes avec qui il a des rapports, n'existent pas en tant que personne, c'est juste lui qui essaye de fuir partout, et de fuir de lui-même évidemment, pour essayer de dire « bon, j'occupe tout l'espace possible ». Bon, amour et immobilité, autre possibilité, c'est une stratégie qui ressemble un peu à la mort, je ne vais pas en parler. Si vous regardez dans l'identité virtuelle, nous avons les mêmes fonctions, donc deux identités autonomes. Okay, j'essaye de me définir moi. Les mêmes structures, on les retrouve dans Internet. C'est quand nous essayons de produire un récit d'identité et de le faire partager aux autres. Prendre la place des autres, ça veut dire qu'on essaye d'installer notre récit, notre façon de nous raconter chez les autres. Essayez de regarder le monde depuis mon point de vue, je vous installe mon point de vue chez vous. Et c'est ce que nous faisons avec, ce que fait par exemple Cécile Portier, c'est une multiplication des identités. Je construis des identités qu'ici j'appellerai virtuelles. Pourquoi virtuelles? Parce qu'elles sont toujours, elles sont autonomes, c'est moi qui les crée, c'est moi qui les disperse. J'occupe la place des autres. Je multiplie les avatars, les pseudos, et tout le travail de production de soi que nous faisons tous les jours, justement, en créant un profil Facebook, en créant et nourrissant un profil Twitter, en créant un avatar sur un site de jeu en ligne, en mettant à jour notre profil institutionnel sur le site de l'université, en mettant à jour notre CV, etc., etc. Tout ça, c'est en nous racontant. Se raconter veut dire essayer de prendre la place des autres, ça veut dire essayer de obliger les autres, c'est pour ça que c'est autonome, obliger les autres à voir ce que nous voulons qu'ils voient. C'est une stratégie qui est une stratégie d'amour. Aimer quelqu'un, finalement, veut dire ça, c'est chercher quelque chose dans son regard. C'est ça que nous faisons. Évidemment, ces stratégies-là sont toujours des stratégies qui sont destinées à l'échec parce que, bon, on ne peut pas prendre la place de l'autre. Et parce que, évidemment, on continue à se disséminer, en multipliant ce qu'on voudrait être unique, unitaire. L'identité virtuelle est une identité disséminée, qui continue à se disséminer et qui crée de l'incohérence. Je suis toutes ces choses-là, donc je ne suis plus rien. Et en plus, je continue à bouger. Encore le paradoxe, je ne peux pas m'identifier parce que je continue à bouger. Deuxième stratégie, beaucoup plus fonctionnel, hélas, la mort. J'accepte que ma place est vide. J'accepte l'hétéronomie. Si vous voulez, quelle est votre identité la plus stable, sinon l'identité de vos papiers? Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose de complètement hétéronome. Ça veut dire que vous y êtes pour rien. C'est quelqu'un d'autre qui vous a donné votre prénom, votre nom, votre numéro d'identité, de carte d'identité, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Tout ça est hétéronome, c'est-à-dire que bah, ma place, finalement, c'est ce que les autres veulent y mettre. C'est triste d'une part, mais finalement, c'est la stratégie qui réussit le mieux. Et alors, laisser sa place vide, regardez TELUS. Justement, quand il laisse sa place vide, la statue. Vous voyez la relation entre un document d'identité et une statue. C'est la même chose. C'est quelqu'un d'autre qui dit quelque chose sur vous. Mais ce quelque chose est stable. Il ne bouge pas. Il est fiable. Il est cohérent. Et Aschenbach, avec ses vacances à Venise, il n'y a rien de plus beau. Il part pour laisser sa place vide, justement, et c'est là où sa place s'est remplie de quoi? S'est remplie de toutes les découvertes qu'il n'aurait pas voulu faire lui-même, autonomement, le fait qu'il est homosexuel, par exemple, et le fait que finalement, pour être vraiment quelqu'un, il ne peut que laisser sa place vide à un amour, justement, mais qui ne se réalise pas dans un rapprochement avec l'autre, mais qui se réalise avec cette place laissée vide, justement à Venise, hein, la lagune, donc avec cette poétique de la mort qui accompagne le roman. Et là aussi, nous avons différents modèles de mort. L'arrêt, c'est-à-dire l'histoire infinie, coupée, ce qui existe avant laisse un vide, et dans ce vide-là, on crée une statue. C'est le modèle de Tellus, okay? C'est un mouvement qui s'arrête un jour, et là où il s'arrête, il laisse un vide, et ce vide peut devenir une cristallisation de l'identité, une statue. C'est pour ça que les morts sont toujours bons, sont toujours gentils, etc. Ce n'est pas seulement parce que nous nous sentons coupables d'en parler mal, mais c'est parce qu'à ce moment-là, nous pouvons construire une statue. L'identité s'est arrêtée, et là, nous sommes à leur place, nous sommes responsables de ce qu'ils sont. Notre discours sera ce qu'ils sont. Donc, du coup, on ne peut qu'en parler bien. Mais bien dans le sens que c'est fini, c'est cohérent. Bon, l'effondrement, c'est la mort de Don Juan. Justement, à force de fuir, à la fin, il y a un trou qui s'ouvre et on laisse un vide. Bon, éloignement, la mort projective, je pourrais en dire quelques mots parce que c'est une stratégie qui essaye de tricher. C'est typiquement la mort de Werther dans les douleurs de Werther, de Goethe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Werther? C'est les suicides romantiques, hein, typiquement, les suicides imaginés par l'adolescent. C'est celui qui pense à ce qui arrivera après sa mort. Alors Charlotte pensera à moi, elle mettra ma main comme ça, et puis tout le monde pleurera, etc., etc. C'est une mort projective. Il n'est pas mort, mais il se projette dans la mort et il pense avec les yeux des autres qui le verront. Sauf que, évidemment, ce n'est qu'une histoire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. En fait, là aussi, la violence de Goethe est énorme. Ce qui est très drôle, c'est que personne à l'époque de Goethe ne s'était aperçu que la sienne était une critique très forte, en fait, à ce type de romantisme. Et tous les jeunes qui se suicidaient pour imiter Werther, ils n'avaient pas compris que Werther est un anti-héros et pas du tout un héros dans le texte de Goethe. Bon, l'identité numérique que j'oppose du coup à l'identité virtuelle étant autonome, tout ce que j'ai créé, tous les récits de moi que je crée sur Internet, est plutôt une identité passive, du coup hétéronome, et l'identité qui nous est donnée par les algorithmes, par exemple le PageRank qui raconte mon histoire, et l'identité qui m'est donnée par la traçabilité, par les traces que je laisse et qui sont réinterprétées par quelqu'un. La meilleure façon pour voir qui vous êtes, ce n'est pas de regarder la photo profil que vous avez choisie, mais de regarder les publicités que Facebook met sur votre profil. Parce que là, à partir des traces que vous avez laissées, lui, il dit, ah tiens, celui-là, c'est un type qui aime aller à la mer et faire du bateau. Et aime ces livres-là. Et là, il y a une identité qui est cristallisée, qui est claire, et qui d'ailleurs est une cible, permet de vous transformer en une cible publicitaire. Quand vous êtes une cible publicitaire, là vous êtes bien identifié. Là on est stable. Mais évidemment c'est hétéronome, c'est quelqu'un d'autre qui parle à notre place. C'est quelqu'un d'autre qui a pris notre place, nous ne sommes plus là. Donc c'est évidemment l'identité du contrôle, qui permet le contrôle. C'est, je le disais tout à l'heure, l'identité des brands, des marques, qui est très stable justement parce que celui qui parle pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est plus stable que moi. Si je suis un mec Lévis, ben là je suis quelque chose qui est stable, qui est reconnaissable, qui est là. Donc évidemment, le problème c'est que je ne suis plus là. Je suis en train de laisser ma place vide. Du coup, les grands problèmes qui se posent à 44 minutes et 8 secondes de conférence, les grands problèmes qui se posent, c'est... C'est quoi moi? Ça reste dans les paradoxes. Et pour terminer, je vais vous revenir du coup, pas à Athènes, mais en Grèce, au moins, avec ce vers magnifique du livre 9 de l'Odyssée. C'est Ulysse qui parle et qui répond au Cyclope, à Polyphème, qui lui demande qui il est. Et Ulysse répond « Utisemo idonoma, utin demekicle scusin, meter, ede pater, elallo ipantes etaroi. » Je suis personne, outis. Outis est mon nom. Personne est mon nom. Et personne m'appelle ma mère, mon père et tous les autres amis. Donc la réponse d'Ulysse, qui a très bien compris le paradoxe de l'identité, c'est que seulement les regards des autres peuvent objectiver l'identité, et que finalement la seule manière pour s'en sortir, et il était bien question pour Ulysse de s'en sortir pour ne pas se faire manger par les cyclopes, était d'admettre que nous ne sommes personne. Merci beaucoup.